Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 28e épisode, je reçois Morgane, qui est infirmière puéricultrice en libéral spécialisée en néonatologie et la créatrice de l'E3B de la puéricultrice. Morgane propose des accompagnements aux parents lors du retour à la maison pour aider à prendre ses marques. Elle fait également partie du collectif « Je suis infirmière puéricultrice » qui se bat pour faire reconnaître une prise en charge pour les soins de l'enfant, de sa famille et de soutien à la parentalité. J'ai découvert ce que pouvait être le parcours des bébés prématurés en suivant sur Instagram l'histoire d'Amélie Chaléa et de sa fille Scheherazade, née à 26 semaines de grossesse. Dans cet épisode, on parle donc de ces parcours pour ces bébés nés prématurément. En effet, cela représente autour de 6% des naissances en France et ces bébés ont un parcours médical plus ou moins lourd selon leur âge et leur poids de naissance. Morgane nous présente quels sont les différents stades de prématurité, ce que cela implique et les différents services hospitaliers dans lesquels ils vont être accueillis. Elle détaille le rôle du personnel médical, la présence des parents à l'hôpital, le droit de l'enfant, ainsi que le soutien auquel la famille a droit, à la fois par un ou une psychologue et auprès d'associations telles que SOS Préma. Elle donne également des informations pratiques sur les pieuvres en tricot ou sur les vêtements adaptés à ses petits bébés, tels que ceux des marques Gaspard et Alice ou encore Petit mais costaud. Enfin, Morgane nous explique les spécificités du retour à la maison et de la prise en charge pluridisciplinaire mise en place pour ses bébés. Avant de vous laisser écouter, je tiens à remercier Anna, une auditrice qui est maman d'un grand préma et qui m'a aidée à préparer les questions de cet épisode. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Morgane.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Ben merci à toi de m'avoir invitée, c'est super chouette.
Avec toi, on va parler des bébés prématurés. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier, s'il te plaît?
Oui, sans problème. Donc moi, je suis Morgane, je suis infirmière puéricultrice. Donc, je suis infirmière spécialisée en pédiatrie et en néonatologie. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux parisiens et je suis restée un petit moment du coup à Necker et notamment en néonatologie.
Néonatologie, ça veut dire quoi?
Alors, en néonatologie, c'est principalement des enfants prématurés qui sont nés du coup avant le terme prévu de naissance.
Combien il y a de naissances de prématurés en France en moyenne?
C'est environ 6% des naissances.
Quelles sont les différentes causes de naissances prématurées?
Mais du coup, alors, il y a ce que l'on appelle la prématurité spontanée, la prématurité provoquée. Donc, dans la prématurité spontanée, c'est vraiment plus, comme le nom l'indique, quelque chose qui se fait là. Enfin, c'est souvent lorsque, par exemple, le travail se met en place sans qu'il y ait vraiment de raison particulière.
C'est le corps, quelque part, qui se met en travail et qui provoque l'accouchement en avance, alors qu'il n'y a pas de cause identifiée potentielle. Quoi.
Voilà. Et après, il peut y avoir ce qu'on appelle la prématurité provoquée. Donc là, c'est plus une décision médicale. Ça peut être, par exemple, dans le cas où il y a une cause sous-jacente, où il est nécessaire en fait, de déclencher l'accouchement parce que, ben, il peut y avoir un risque soit pour la maman, soit pour le nouveau-né. Donc ça peut être, je te donne un petit exemple, un retard de croissance du fœtus, ou alors quand la maman fait une hypertension artérielle sévère, quand on se rend compte qu'il y a une anomalie par exemple de l'utérus et du placenta, qui, comme le placenta prévia, et souvent les grossesses pardon, multiples ne vont pas à leur terme, et souvent on déclenche l'accouchement un petit peu avant, parce que voilà, on sait qu'il y aura une prise en charge qui va pouvoir être combinée directement après la naissance, et voilà.
Ok. À quel stade on considère qu'un bébé peut naître déjà ? Et ensuite, jusqu'à quel stade de la grossesse on considère que c'est encore un bébé prématuré ? Ou est-ce qu'on considère, parce qu'il y a une période dans le dernier mois où on considère que même s'il arrive un peu en avance, c'est pas forcément un prématuré ?
Oui, exactement. Ben, en gros, une grossesse à terme, c'est entre 38 et 42 semaines d'aménorrhée. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, on considère qu'un nouveau-né est né prématurément s'il naît avant 37 semaines, donc soit environ 8 mois et demi de grossesse. C'est vrai que, comme tu le disais, en fait, il y a plusieurs stades de prématurité. Un nouveau-né qui naît à 37 semaines ou à 36 plus 6, et c'est ce qu'on appelle une petite prématurité. On considère que le bébé est quasiment né à terme. Donc, dans la prématurité moyenne, ça va de 33 semaines jusqu'à 36 semaines plus 6. Après, tu as la grande prématurité, où là, c'est déjà à partir de 28 semaines jusqu'à 32 semaines plus 6. Et tu as l'extrême prématurité, où là, c'est toutes les naissances qui sont avant 27 semaines plus 6. Donc on les appelle également les prématurissimes.
Pour avoir un ordre d'idée, un bébé prématuré, il fait combien à la naissance ?
C'est assez fluctuant au niveau du... Enfin, ça dépend du terme. Mais par exemple, pour que tu comprennes un petit peu... la viabilité en France, elle est à partir de 23-24 semaines et il faut que le bébé pèse plus que 500 grammes. Si le nouveau-né pèse moins que 500 grammes, en fait, on ne le considérera pas comme viable.
D'accord.
Et du coup, il n'y aura pas de réanimation néonatale parce que le but, on n'est pas là non plus pour s'acharner. Et après, c'est des débats éthiques. Mmh. Hein. Je sais que dans d'autres pays dans le monde, la viabilité a été amoindrie. Mais pour le coup, en France et dans plusieurs pays européens, on s'est limité à cette viabilité-là parce qu'on sait qu'après, il va y avoir des conséquences. Et le but, c'est que quand même, il y a un bien-être après de l'enfant et on pense au après, quoi.
Ok. Donc, les très grands prématurés, ils peuvent naître et faire 600-700 grammes, quoi.
Exactement, oui.
Ok.
Mais dis-toi que c'est des choses qui ont évolué, par exemple... il y a 30 ans, le terme de viabilité n'était pas le même, en fait. Tout ça, c'est évolué aussi avec l'évolution de la médecine.
D'accord. Mmh. On a plus de moyens aujourd'hui de pouvoir Exactement. Faire grandir ces bébés-là.
Exactement.
Ok. En termes de suivi et de prise en charge, j'imagine qu'entre les différents stades de prématurité, on n'est pas du tout dans les mêmes prises en charge.
Exactement, oui.
Ça correspond à quoi ?
Donc, la néonatologie, c'est vraiment le service qu'on englobe en général. Et après, tu as des unités.
Donc,
tu as par exemple le service de réanimation néonatale, puis après tu as le service de soins intensifs néonatales, tu as la néonatologie, ce que moi j'appelais tout à l'heure la pédiatrie néonatale, et tu peux avoir l'unité mère-enfant, l'unité gangourou, ça dépend des établissements, l'appellation n'est pas forcément la même. Et donc forcément en fonction du terme de l'enfant, il n'aura pas les mêmes besoins, et donc du coup il va être orienté dans ces différents services-là. En fait, il faut savoir qu'un bébé prématuré, c'est un bébé qui est immature sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan respiratoire, sur le plan digestif, sur le plan immunitaire, sur vraiment tous les plans de son corps, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, un grand préma, au début, tout dépend de son terme. S'il n'arrive pas à s'adapter tout seul et à respirer tout seul, il aura besoin d'avoir ce que l'on appelle une assistance respiratoire et d'avoir un tube qui permet, du coup, de l'aider à respirer. Donc, dans ce cas-là, il ira en réanimation. Alors que, par exemple, un nouveau-né qui a une prématurité moyenne, qui arrive à s'adapter, qui respire tout seul, il n'aura pas forcément besoin d'aller en réanimation et il pourrait aller dans un service de type soit en soins intensifs, s'il a besoin d'une toute petite aide assez légère, ou alors il ira en néonatologie, parce que voilà, son terme fait qu'il pourra être suivi dans un autre service. Donc c'est vraiment très fluctuant par rapport aux études, enfin, au terme de l'enfant. En
fait. Est-ce que tous ces bébés-là, ils sont en couveuse? Est-ce qu'il y a ce point commun-là de la couveuse pour tous les prématurés?
Alors, ça c'est pareil, c'est la même chose, tout dépend du terme. Après, globalement, pour le démarrage, tous les bébés ont besoin d'être en couveuse. Donc, par exemple, un grand prématuré qui naît à 28 semaines, là, forcément, oui, il a besoin d'être en couveuse. Parce qu'en fait, la couveuse, si tu veux, le but, c'est de recréer, en fait, comme c'était bah, le ventre de la maman. Donc, la couveuse, ça permet donc de maintenir le bébé au chaud. Donc, la couveuse est chauffée. Mais ça permet aussi, ça fait comme une caisse anti-bruit. Où, du coup, ça permet aussi d'éviter qu'il y ait tous les bruits autour du bébé, qui peut être assez gênant. Tu vois, dans le ventre de la maman, t'as la paroi, enfin, du ventre. Donc, du coup, bah, forcément, les sons sont assez amoindris. Donc, le but de la couveuse, c'est ça aussi. Et parallèlement, tu verras souvent ce qu'on appelle des caches couveuses. Où, du coup, c'est comme, on va dire, comme des grands draps qui sont mis sur la couveuse, qui permet, du coup, de filtrer la lumière. Et qui permet aussi au bébé de rester vraiment dans le noir. Donc voilà, moi souvent j'aime bien dire qu'en fait la couveuse c'est comme si c'était le ventre de la maman, en beaucoup moins bien parce que forcément il n'y a pas toutes les sensations qui vont avec.
Oui.
Mais voilà.
Est-ce que tous ces bébés-là, on peut les porter? Ou est-ce qu'il faut attendre un certain stade de développement pour que les parents puissent par exemple faire du pot à pot et ce genre de choses?
Au contraire, le pot à pot, c'est vraiment très, très, très important et c'est primordial pour les bébés. Alors, d'accord. Je ne veux pas du tout avoir un discours culpabilisant parce que parfois, il y a des parents, et notamment des mamans qui ont eu un accouchement assez compliqué, qui sont fatiguées, donc ils ne peuvent pas dès le début prendre leur bébé en pot à pot. Mais moi, j'ai vu faire hein, des bébés qui étaient intubés, ventilés, qui étaient en réanimation et qui faisaient du pot à pot avec leurs parents. Et en fait, au contraire, c'est quand même très valorisé et c'est vraiment même très conseillé de faire ça parce que le fait d'avoir son bébé sur soi déjà le bébé du coup permet en fait arrive à se stabiliser sur plusieurs éléments, notamment sur le plan respiratoire, sur le plan cardio-respiratoire, et surtout en fait le fait d'être contre sa maman, le bébé sent l'odeur de sa maman ou de son papa hein, avec son parent, voilà, j'aime bien dire ça, avec son parent, c'est même vraiment recommandé, c'est très important, et même sur le plan développement en général c'est une merveille de faire ça.
Ok. Est-ce que les parents, ils ont la possibilité de rester 24 heures sur 24 avec leur bébé quand ils sont en réanimation comme ça?
Oui, alors bien sûr, si la configuration du service le permet. Hein.
Oui.
Parce que bien sûr, tout dépend du service de réanimation de l'hôpital, comment sont agencées les chambres, etc., etc., etc. Aussi, on va dire, est-ce qu'il y a du... Quand je dis du matériel, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a bien des transats pour chaque parent, etc. Mais dans les faits, en fait, chaque parent peut rester avec son bébé 24 heures sur 24. Et ça, c'est là, j'extrapole un peu, pas que en service de réanimation néonatale ou en néonatologie, mais vraiment dans tous les services en pédiatrie. Ça fait même partie de la charte européenne des droits de l'enfant hospitalisée, où chaque enfant, en fait, a le droit d'avoir ses parents jour et nuit. Donc voilà, ça, c'est une info à bien retenir.
D'accord, donc même quand nos enfants, ils sont plus grands, quand ils sont hospitalisés, c'est un droit qu'on a de pouvoir rester avec eux.
En fait, c'est un droit de l'enfant, c'est même pas le vôtre, c'est pour l'enfant. C'est pour vous aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour l'enfant, oui. Bah oui.
Ok. Et par contre, si par exemple, on a un premier, ou si on est mal à l'aise par le fait de dormir avec son enfant dans ces services-là, est-ce que c'est quand même possible de les laisser sur un laps de temps prévu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre le relais? Comment ça se passe?
C'est une possibilité, ce que je disais, que les parents puissent dormir, mais concrètement, c'est quand même très, très compliqué dans un niveau pratique d'être tout le temps auprès de son bébé, surtout quand il est à l'hôpital, parce que même si c'est un premier bébé, si la grossesse était compliquée, la maman a besoin de se reposer, etc. Donc en fait, nous on prend le relais.
D'accord.
On prend le relais, nous, les personnels soignants, on est là justement très souvent, enfin moi quand j'étais en néonate, d'ailleurs ça faisait sourire les parents, souvent ils nous voyaient avec leur œil dans les bras, on les prenait en écharpe et puis on leur faisait des câlins, enfin vraiment on est vraiment là pour eux, donc voilà, les enfants ne restent pas. Et là je te parle plus dans le cas de, quand je dis porter en écharpe, c'est plus dans le cas de moi, ce que j'avais en pédiatrie néonatale, où c'était des bébés qui étaient dans un stade beaucoup plus avancé et qui étaient du coup... quand même plus proche de la sortie que s'ils étaient en réanimation. Mais même, moi, je voyais des collègues en soins intensifs qui pouvaient porter les bébés et qui restaient avec eux. Enfin, voilà. La pédiatrie, c'est ça aussi. Hein. Il n'y a pas que les soins, il y a aussi tout l'accompagnement qu'on a avec les enfants. Parce que, comme je vous dis, la prise en soins en pédiatrie n'est pas la même qu'une prise en soin chez l'adulte, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et il ne faut pas oublier qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature, pas du tout.
Et surtout des tout petits comme ça, c'est vraiment...
Bah oui.
Ok. Est-ce que les parents, question pratico-pratique, est-ce que les parents ont le droit à un arrêt de travail quand leur enfant est né prématuré ? Et est-ce que les deux parents y ont droit, ou est-ce qu'il n'y a que la maman ?
Alors, moi, je ne suis pas vraiment experte sur ça, mais moi, ce que j'ai pu entendre, c'était que, en fait, les parents pouvaient avoir ce qu'on appelle un congé parental, qui était du coup maintenu jusqu'à la date théorique du terme de l'enfant.
D'accord.
Donc, c'est ce qui permet, en fait, aux parents d'être présents, d'être là tout le temps auprès de leur bébé, parce que, en fait, ce n'était pas prévu. Normalement, le bébé ne devait pas naître avant le terme prévu, donc, forcément, ils ont un droit. Et autre chose aussi, ça peut arriver que, par exemple, le parent peut du coup demander à interrompre son congé parental et le reprendre lorsque son bébé sort de la néonatologie. Ça peut être quelque chose aussi qui peut être négocié. Okay. Et autre chose que je voulais dire aussi, l'employeur aussi peut vous proposer ce qu'on appelle un congé de présence parentale qui peut durer jusqu'à 14 mois. Et en fait, c'est pour ça que souvent, moi, je voyais en néonat des parents qui nous demandaient ce qu'on appelle le bulletin de présence, où en fait, c'est un bulletin qu'on imprimait, on pouvait récupérer ça sur le dossier de l'enfant. Et du coup, on l'imprimait, c'était un peu comme un justificatif qui disait que l'enfant était hospitalisé. Et du coup, comme ça, les parents donnaient ce document-là à leur employeur qui permettait de justifier le fait que leur bébé était hospitalisé, du coup, qu'il fallait qu'il soit là en tant que parent pour veiller à leur enfant, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment chouette qu'il y ait ça qui est mis en place, parce que ça enlève aussi une grosse charge mentale pour les parents, et ça déstabilise énormément, donc c'est trop bien.
Ouais, c'est clair. Et puis c'est hyper important de pouvoir accompagner son enfant si on en a envie, si on s'en sent capable.
Bien sûr.
Et donc c'est bien d'avoir un support qui permette de le faire. Ouais,
ouais, ouais. Ouais.
Bon, j'imagine que quand ça arrive, alors moi j'ai pas connu de naissance prématurée de mes enfants, donc j'ai de la chance, mais j'imagine que quand ça arrive, on n'est pas préparé et qu'on a un milliard de questions. Est-ce que à l'hôpital on peut poser toutes nos questions à qui on veut, ou est-ce qu'il y a des gens en particulier à qui on peut les poser? Est-ce qu'il y a des psychologues qui sont proposés de manière systématique?
Déjà, les premières personnes à qui vous posez un million de questions et puis vous pouvez poser, répéter sans souci, du coup c'est à nous, au personnel soignant du service de votre bébé. Donc là, je parle personnel soignant, je parle le pédiatre, les infirmières, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, enfin vraiment toutes les personnes qui s'occupent de votre bébé. Mmh. Et ça, j'insiste énormément parce qu'en fait, c'est vrai que le personnel, on est là, on est tout le temps avec votre bébé, et c'est vrai qu'en fait, n'ayez pas peur de poser des questions, c'est normal, et surtout, on est les personnes au plus près de votre enfant pour répondre aux questions. Et je rebondis sur ce que tu disais, oui, il y a des psychologues. Il y a des psychologues, du coup, qui sont là aussi pour accueillir les parents, qui sont vraiment dédiés pour ça, en fait, qui écoutent et qui sont là aussi pour répondre aux questions. C'est des psychologues qui sont formés aussi à la question de la prématurité. Moi, quand j'étais en néonate, on avait une psychologue, du coup, qui connaissait très bien ce que c'était que la prématurité. Donc ça, c'était génial. Et d'ailleurs, elle faisait un boulot assez chouette, parce que, alors là, je digresse un peu, mais elle faisait un boulot assez chouette aussi sur les fratries. Bon, en fait, des après-midi, les frères et sœurs pouvaient, du coup, venir visiter leur petite sœur ou leur petit frère avec la psychologue. Donc, c'était assez chouette, parce qu'il y avait un temps d'échange avant pour expliquer. Puis là, ils voyaient un peu comment ça se passait avec les parents. Et puis nous, en plus, ils nous posaient des questions. Donc, c'était un moment que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment une prise en charge pluridisciplinaire à l'hôpital.
Est-ce qu'il y a des associations qui font référence dans la prématurité à qui on peut éventuellement aussi s'adresser pour trouver du soutien ou échanger avec d'autres parents? Parce que des fois, c'est agréable aussi de pouvoir échanger avec des parents qui ont vécu la même chose que nous.
Ah ben, et puis même, c'est vraiment hyper important en vrai, parce qu'on a beau être professionnel, etc. Parfois, on a besoin de cette connexion et d'être rapproché à des personnes qui vivent ce qu'on vit, en fait. Ça, c'est... Ouais. C'est hyper important. Il y a des assos. Alors, une asso qui est quand même assez connue, on va dire, j'allais dire, dans le monde de la prématurité, c'est SOS Préma, qui est assez connue. Je vais parler de l'association qui était à l'écart, qui s'appelle Petit Pas et Grande Idée. Alors là, c'est pas une asso de parents, mais c'est une asso aussi qui est assez chouette, parce que du coup, en fait, même si c'est régi par des professionnels, du coup, y a les parents du service qui y adhèrent, donc du coup ça crée aussi une dynamique où les parents se connaissent aussi entre eux, donc ça c'est assez chouette. Et là, tout récemment, j'ai découvert une asso que je ne connaissais pas du tout, qui est aussi une asso qui a été là aussi créée par des parents, qui s'appelle Les Petites Fées Préma. Et je trouvais que c'était assez chouette. Alors, c'est plus là en Ile-de-France, cette asso-là. Alors, SOS Préma, c'est une association.
C'est vraiment nationale.
Exactement. Et je voulais rebondir, pour terminer, ce que tu me posais la question par rapport aux personnes à qui on pouvait s'adresser aussi en dehors de l'hôpital. Il y a aussi, ça sera pour le après, avec des professionnels libéraux. Donc, par exemple, les pédiatres, les puéricultrices, la PMI, les réseaux de santé de la région. Voilà, c'est aussi des points d'ancrage où on peut se référer. Alors là, c'est plus dans le après.
Ouais, parce que j'imagine que tout ne s'arrête pas quand on sort de l'hôpital.
Ah ben, pas du tout. Au contraire, c'est le début de l'aventure. Hein.
Alors, tant qu'on est à l'hôpital, est-ce qu'il y a des équipements que les parents doivent prévoir ou peuvent acheter à un moment donné pour aider leurs enfants? Alors, moi, j'ai en tête des choses très basiques comme des vêtements, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des équipements particuliers à prévoir quand on a un bébé prématuré?
L'hôpital vraiment s'occupe vraiment de tout. Après, tout dépend du coup du stade d'évolution du bébé, s'il est en couveuse, s'il est habillé ou pas. Là, voilà, quand, par exemple, typiquement, quand ils sont en soins intensifs ou quand ils sont en pédiatrie néonatale et qu'ils ne sont plus en couveuse, là, les parents fournissent les petits vêtements, les petits body, etc., etc. Pas de panique si, par exemple, une naissance prématurée, c'est pas prévu. On a aussi, des body et des vêtements qui sont d'ailleurs souvent gracieusement donnés par les parents qui ont été en néonate et qui, du coup, quand leur bébé grandissent, offrent du coup des vêtements pour le service.
Ouais.
Mais en vrai, en soi, il n'y a pas vraiment besoin d'équipement vraiment très spécifique. Juste, moi, ce que j'aime bien proposer aux parents, justement, là, pour je rebondis sur ce qu'on disait sur le fait que parfois, ils ne peuvent pas rester en service avec bébé et que du coup, ils rentrent à la maison parce que voilà. J'aime bien leur dire de prendre un linge, donc je sais pas si tu vois les petits carrés là, les petits langes, et en fait, ou même souvent, mais je dis carrément, ou un t-shirt, voilà, un t-shirt où ils ont dormi avec toute la nuit, et c'est leurs parents, et en fait, du coup, ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'odeur qui est imprégnée en fait sur le tissu, et souvent, c'est vraiment hyper bien accueilli quand les parents nous donnent ça, parce que nous, on peut soit refaire le lit avec ça, ou mettre le linge juste à côté du bébé, et comme ça, en fait, dans la couveuse, bébé sent encore l'odeur de papa, de maman. Et souvent, moi, j'ai eu des parents comme ça qui alternaient. Un jour, c'était le linge de maman, un jour, c'était le linge de papa. Et en fait, comme ça, tous les jours, bébé avait toujours cette connexion avec eux et l'odeur. Et voilà, c'est des petites attentions. Il n'y a pas besoin de grandes choses, je pense qu'il n'y a pas besoin de grands équipements, mais des petites choses comme ça qui permettent de rester en lien avec son bébé.
Ok. On parlait des vêtements, justement, à partir d'un certain stade, quand même, on commence à les habiller.
Bien sûr.
Moi, je me souviens que quand je cherchais des vêtements pour mes enfants à moi, qui sont des petits formats, mais bon, qui n'étaient pas du tout préma, mais qui étaient déjà des petits formats, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choix dans les petits formats. Donc, j'imagine que pour les préma, c'est encore plus difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a des marques dont on sait notoirement qu'elles ont des tailles préma et chez qui il vaut mieux aller pour trouver ce genre d'équipement?
Déjà, là, de nos jours, on a de la chance parce qu'on a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de vêtements préma qu'il y a quelques années. Alors, quelle marque je peux proposer? Je sais que Verbaudet propose quand même des vêtements en petite taille. Notamment, ils ont une gamme Préma.
Ok.
La marque Gaspard et Alice, qui est assez chouette, qui du coup, pour le coup, eux sont vraiment spécialisés bébé prématuré. Ils ont vraiment axé leur ligne de vêtements sur ça.
D'accord.
Et j'ai découvert du coup une marque qui est assez chouette et toute mignonne, qui s'appelle Petit mais Costaud. Et donc là, c'est pareil, comme le nom Petit mais Costaud, eux, c'est aussi que pour les prémas, voilà.
Ok, donc ça, c'est chouette. Il y a de plus en plus de choses qui se font pour les prémas aussi.
Ouais, non, c'est chouette.
Ok, et quand on parle des prémas, alors moi, j'avais en tête l'image de la pieuvre en tricot.
Ouais.
Dont on parle. À quoi ça sert, cette pieuvre?
Ouais, en fait, c'est une petite pieuvre qui est tricotée, alors sans par des bénévoles, avec une laine spéciale. Donc, je tiens à le préciser parce que parfois, pu voir ça appartient à mon sentiment, mais des mamans ou même des amis qui tricotaient ces pieuvres-là, mais en fait, il y a une norme qui doit être respectée. Et en fait, elles servent du coup à ce que bébé, du coup, en fait, le sport, si on devait créer un sport national aux Olympiques, enfin, une discipline, ça serait l'arrachage de sondes chez les prémas. Et là, pour le coup, franchement, tous les prémas sont vraiment au top. Parce qu'en fait, c'est normal, en fait, souvent les prémas, ils ont des mouvements, enfin, quand ils sont un petit peu désorganisés, etc., ils ont aussi besoin de se raccrocher à des choses. Et donc, ce qui est logique, qu'est-ce qui est facile à raccrocher? C'est soit la sonde d'intubation, hop, et puis souvent de l'autre main, hop, on essaye de prendre la sonde gastrique où il y a l'alimentation qui passe. Et en fait, le but de ces pieuvres, c'est qu'il y a plusieurs tentacules, et quand tu tires dessus, tu as un léger petit mouvement, on va dire, une petite rétraction, et donc du coup, les bébés, en fait, au lieu d'attraper la sonde d'intubation ou la sonde, la sonde d'alimentation, ils accrochent la vie tentacule.
Juste pour qu'ils aient un petit doudou, ça a une vraie utilité médicale, ouais.
Ça a une utilité médicale, et puis après, il y a tout le côté aussi où le fait que, qu'ils aient quelque chose où ils se lovent, où ils peuvent, du coup, comme un petit doudou, il y a ça aussi, en fait. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est offert à tous les bébés prématurés, c'est offert par les hôpitaux, généralement, donc c'est assez cool, ça aussi.
D'accord. Alors, si nous, dans notre famille ou dans nos amis, on a des parents qui vivent cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Parce que j'imagine que c'est quand même une situation qui doit être un peu stressante, un peu déstabilisante, parce que c'est forcément quelque chose qui n'était pas prévu.
Ben, moi, je pense que, en fait, il faut juste voir comment, dans quelle, on va dire, posture se trouve le parent d'un bébé prématuré, parce que parfois, je sais que ça peut être, il y a des parents qui se sentaient un petit peu... pas triste, mais parfois on leur disait voilà, en fait on les rappelait trop souvent au fait que leur bébé n'était pas à la maison, et parfois ils avaient un peu cette pression là en se disant voilà, quand la famille leur demandait quand est-ce qu'il sort, enfin il y avait un peu cette pression là que les parents pouvaient avoir. Mais je pense que, enfin, de toute façon, c'est comme tout dans la vie, il faut avoir une bonne dose d'empathie, de bienveillance, et puis voir en fait comment la personne est et comment la personne, enfin quel est le besoin propre de la personne. Mais une chose est sûre, c'est vraiment apporter du soutien et en fait accueillir l'émotion de l'autre. Si on sent que la personne, ben oui, elle est fatiguée, elle a besoin de parler, elle a besoin de pleurer, ben juste écouter, l'accompagner. Et voilà, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait de recette magique, en fait. Je pense qu'il faut juste accompagner, être là pour sa famille, pour ses amis, vivre une situation comme ça qui n'est pas des plus faciles.
Ouais. Bon, alors on imagine qu'on a passé notre séjour à l'hôpital, alors des fois ça dure plusieurs mois,
oui.
Et puis à un moment donné on nous annonce qu'on va pouvoir rentrer à la maison.
Ouais.
Comment ça se passe le retour à la maison ? Est-ce qu'il y a un âge ou un poids qu'il faut atteindre pour pouvoir rentrer à la maison ? À quel moment ça se fait, en fait, ce retour à la maison ?
Alors, en fait, le retour à la maison, ici, quand on voit que le bébé, du coup, a acquis les compétences nécessaires pour rentrer à la maison, en fait, comme s'il était à terme. Donc, le bébé, du coup, déjà, quand il est en néonat, il respire tout seul, il est stable sur le plan hémodynamique. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de sa fréquence cardiaque, en fait, souvent, le bébé prématuré, comme il est immature, il avait tendance à faire des bradycardies, donc ça veut dire un ralentissement de la fréquence cardiaque. Donc voilà, il faut qu'il soit stable sur tous ces points-là, qu'il s'alimente tout seul, qu'il arrive aussi à thermoréguler tout seul, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de la couveuse qui chauffe en permanence, ni par exemple de berceau chauffant, donc voilà, il arrive à se réguler tout seul. Donc en vrai, il n'y a pas forcément un terme ou un critère vraiment très particulier, c'est plus vraiment le bébé qui arrive à acquérir toutes ces compétences-là.
D'accord.
Parce que parfois, il y a des parents qui se focalisent sur le fait, ils disent, à cette date-là, ça aurait été son terme, on va dire, son terme de naissance. Enfin, et du coup, ils peuvent être focalisés sur ça. Et en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment les capacités du bébé. En fait, on s'en fiche, par exemple, ça peut arriver qu'un bébé, finalement, il aurait dû naître, son terme, son réel terme était à ce moment-là, et en fait, peut-être que il faudra qu'il reste une semaine de plus parce qu'il a des petites compétences à acquérir en plus, et c'est pas grave. Le but, nous, ce qu'on regarde, c'est plus ses compétences à lui, et on regarde aussi le poids.
D'accord.
Voilà, il faut que bébé pèse plus que 2 kilos pour entrer à la maison, et parfois, il y a des petites exceptions, notamment pour des grossesses gémellaires, où là, les petits poids, on demande un petit suivi avec l'HAD, où là, pour le coup, il y a un suivi journalier, puis parfois c'est 2 fois par jour, et puis après, petit à petit, quand on voit que tout se passe bien, le suivi s'espace un petit peu, donc ça peut arriver que parfois il y a des suivis avec l'HAD. L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile.
Est-ce que quand on ramène notre bébé qui a été prématuré à la maison, est-ce qu'il y a des adaptations à prévoir ? Ou est-ce que finalement la vie reprend son cours de manière normale ? Ou est-ce qu'il y a quand même des adaptations à faire en termes de soins, par exemple, ou de matériel à utiliser qu'il va falloir modifier par rapport à ce qu'on avait prévu, ou de suivi médical particulier ?
Oui, alors moi je dirais pas vraiment des adaptations, je dirais plus qu'en fait, bah, il faut juste garder en tête que notre bébé est un petit peu plus fragile, on va dire, et je mets vraiment des guillemets, que des bébés qui sont nés à terme. Donc en fait, dans les petites précautions, dans l'adaptation de tous les jours, non, c'est-à-dire, enfin voilà, les soins sont sensiblement les mêmes, hein, il n'y a pas des choses particulières à rajouter. Après, il se peut que parfois, enfin fréquemment, on voit que parmi il y a pas mal de bébés prématurés qui font des petits reflux, donc il y a des choses comme ça qui sont un peu à être adaptées, mais ça c'est vraiment du cas par cas. Après, au niveau du suivi, il y a quand même un suivi un peu plus particulier pour ces bébés-là, notamment en fait, ils peuvent être suivis par, par exemple, par ce qu'on appelle le réseau de santé périnatale de la région où on habite. Donc là, à Paris, ben, c'est le réseau de santé périnatale, où là, ce sont des professionnels libéraux, par exemple des néonatologues libéraux qui, du coup, suivent les bébés. Il y a aussi un suivi avec le CAMS, donc c'est le Centre d'action médico-sociale précoce. Donc comme le nom l'indique, en fait, ça permet de dépister d'éventuels, on va dire, alors j'aime pas trop dire le terme de trouble, mais ça permet en fait d'avoir un suivi assez régulier avec plusieurs professionnels, pour s'assurer que tout est périn et que tout se passe bien. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a, au niveau par exemple du développement de l'enfant, il faut garder en tête que l'évolution peut être légèrement différente qu'un bébé qui est né à terme. Mais voilà, après, ça n'a pas de conséquences majeures par la suite. Hein, c'est juste qu'il y a une petite adaptation, il faut garder ça en tête.
Oui, donc ça veut dire que les bébés qui sont prématurés et qui n'ont pas de maladie autre que le fait d'être nés plus tôt,
ouais,
ils vont normalement se développer de la même manière que des bébés nés à terme, avec quelque part un petit délai dans l'acquisition de certaines compétences, mais le cycle de développement va être le même, c'est ça ?
Exactement. Après là, je dis vraiment ça dans le sens où s'il n'y a pas eu de complications majeures, voilà. Mais en gros, c'est ça. En fait, c'est pour ça que du coup, il y a un suivi justement jusqu'aux 7 ans de l'enfant avec plusieurs professionnels. Donc, c'est ça aussi le travail de collaboration qui est vraiment génialissime, parce qu'il y aura un suivi possible avec une psychomotricienne, avec une orthophoniste, avec du coup les pédiatres, avec l'équipe de PMI, avec les puéricultrices libérales, enfin vraiment avec tout le réseau comme ça du médico-social pour que tout aille bien. Mais.
Oui, donc a priori, il y a un développement classique de l'enfant,
ouais.
Mais par contre, du fait qu'il ait été prématuré, il a un suivi médical particulier jusqu'à ses 7 ans, c'est ça ?
Exactement. En fait, il faut que les parents pensent que, en fait, quand on est avec un bébé né prématurément, il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle l'âge corrigé et l'âge réel.
Mm-hmm.
En fait, l'âge réel, c'est l'âge chronologique. Moi, je dis c'est l'âge civil, on va dire ça comme ça. C'est l'âge anniversaire. Alors que l'âge corrigé, c'est l'âge que bébé aurait dû avoir s'il était né à terme.
D'accord.
Donc en gros, pour que tu vois un peu en termes d'exemple, voilà, bébé qui est né à 7 mois de grossesse, il a 2 mois d'avance, donc lorsqu'il aura 12 mois, c'est comme si au niveau du développement, il en avait 10. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'en fait, on ne peut pas, par exemple, demander à un bébé né prématurément d'avoir les mêmes compétences que son copain, qui est né à la même date que lui, hein. Mais en fait...
Ouais.
Bah, son copain, oui, lui sera né, il aura vraiment un an, alors que son ami qui est né prématurément, au niveau des acquisitions, il ne pourra pas avoir les mêmes acquisitions, les mêmes compétences.
Oui, donc quelque part, on s'attend à avoir les mêmes compétences en termes d'âge corrigé, mais pas en termes d'âge réel.
Voilà, c'est ça. Et c'est okay. Quelque chose que moi, je trouve ça, que je, souvent j'explique aux parents, quand à la sortie de la néonate ou quand je les accompagne. Je trouve ça hyper important parce que sinon, ça peut être assez anxiogène en fait pour les parents et ils comprennent pas pourquoi, ben voilà, là il a cet âge-là et puis il sait pas faire ça. Alors qu'en fait, dans leur cas à eux, ça ne laissait pas du tout les mêmes critères et il faut vraiment pas s'inquiéter et être angoissé parce qu'on se dit mince, il n'y arrive pas.
Oui, il faut revoir sa grille en fonction de l'âge corrigé plutôt. Et...
Mais c'est pour ça en fait qu'ils ont un suivi aussi avec des pédiatres qui sont, on va dire, spécialisés et des néonatologues. Donc un néonatologue, c'est un pédiatre qui est spécialisé en néonatologie, qui du coup connaît vraiment la prématurité. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi aussi particulier en plus, parce qu'il y a une prise en soin qui est quand même un petit peu différente.
Ok. Du coup, toi, tu es installée maintenant à domicile, enfin en libéral, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je suis puéricultrice indépendante, donc je me déplace à domicile et je fais des consultations de puériculture. Mais justement, en fait, ça a été la néonate, moi, qui m'a poussée à me lancer dans cette activité-là. parce que justement je trouve que c'est vraiment important d'accompagner les parents, de les rassurer. Et c'est vrai que la vie ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital, aux portes de la néonatologie, et que c'est souvent le après qui peut être un peu anxiogène et un peu angoissant pour les parents. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet accompagnement là et de me déplacer chez les parents, parce que pareil, on donne des conseils dans les murs d'un hôpital avec, je pense souvent par exemple au bain, où du coup on montre les soins dans un environnement T, et en fait quand on est à la maison c'est différent.
Oui, parce qu'on n'a pas la petite baignoire avec la taille adaptée, le bon robinet, tout ça, on n'a pas ça chez nous.
Exactement.
Quand on arrive devant notre grande baignoire ou notre petite douche, on se dit mais en fait ça marche pas du tout cette histoire. On m'a raconté n'importe quoi.
Donc voilà, c'est plutôt ça a été une volonté vraiment d'être vraiment dans l'existant et de proposer un accompagnement sur l'existant, enfin.
Ouais, sur quand je suis chez moi avec mon bébé, comment je fais, quoi.
Exactement. Et puis justement aussi en néonat, c'est un environnement où on a été vraiment très cocooné, très cajolé, et du coup je trouve que c'est un peu dur de, même s'il y a un suivi comme ça réseau avec les pédiatres, etc., mais je trouve que le fait d'avoir aussi une continuité et d'avoir quelqu'un qui se déplace à la maison pour les premiers mois, en fait on se sent encore accompagné, et je trouve que ça fait vraiment tout en douceur. Je sais pas, vois, c'est vraiment, il n'y a pas une fracture, quoi. C'est quelque chose qui se fait genre petit à petit, puis après hop, on voit que on espace les rendez-vous de plus en plus jusqu'à que ça soit ok. Et puis s'il y a des questions, on peut toujours avoir une personne référente s'il y a besoin.
Est-ce qu'il y a une prise en charge de ce type de choses ou pas du tout?
Alors là, à l'heure actuelle, justement, on est en train de se battre pour ça. Là, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Je suis puéricultrice. Et en fait, malheureusement, pour le moment, on n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. On a une prise en charge mutuelle.
D'accord.
Mais c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment, vraiment hyper chouette. Et ça serait vraiment, je pense, même important que ce type d'accompagnement soit pris en charge pour la sécurité sociale. Mais en attendant, ça ne l'est pas.
Ok, donc ça dépend des mutuelles.
Exactement, ça dépend des mutuelles, ouais. Ouais.
Ok, ça marche. Très bien. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter?
Non, je pense que... J'espère que c'est assez complet.
En tout cas, c'est très chouette. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Cet épisode touche à sa fin. Je vous mets toutes les références des associations et des marques citées dans les notes descriptives de l'épisode. Pour en savoir plus sur les accompagnements proposés par Morgane, vous pouvez consulter le site internet www.les3bdelapéricultrice.com. Je vous mets également le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés, sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.